Bonjour, aujourd'hui on se plonge dans un document assez unique.
Oui, vraiment particulier.
C'est un mémorandum citoyen de plus de 150 pages qui a été soumis en novembre 2025 au Maroc dans le cadre d'une grande concertation.
Tout à fait.
Et l'objectif c'est de, on va dire, dépoussiérer une proposition d'autonomie pour la région du Sahara. Le tout sous souveraineté marocaine.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce document, il sort pas de nulle part. Il arrive juste après la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a un peu redéfini le cadre diplomatique.
D'accord. Mais ce n'est pas juste un texte politique, en fait. C'est vraiment une architecture complète, institutionnelle, économique, sociale, tout y est.
Oui, tout. Et tout ça est justifié par une analyse historique assez profonde et des comparaisons avec ce qui se fait ailleurs dans le monde.
C'est ça qui est fascinant. On a l'impression qu'ils essayent de résoudre un peu la quadrature du cercle.
Comment ça ?
Comment donner une autonomie qui soit maximale, une vraie autonomie, mais sans jamais risquer la sécession ? C'est un peu ça, la question. On va voir ensemble comment ils tentent de construire cette cage dorée, si on peut dire.
La première chose qui frappe, c'est que pour parler du futur, le document passe un temps fou à parler du passé. On remonte jusqu'en 789.
Oui, c'est la première chose que je me suis demandé. Pourquoi ce détour de 12 siècles pour un plan d'autonomie en 2025 ? On dirait qu'ils veulent d'abord gagner la bataille de l'histoire avant même de parler politique.
Mais c'est exactement ça. Pour les auteurs, on ne peut pas comprendre la position du Maroc si on la regarde avec des lunettes d'État-nation classique, à l'européenne.
Ah, d'accord.
Ils parlent d'un état civilisationnel. La légitimité, selon eux, ne vient pas d'une constitution ou d'une révolution, mais d'une continuité dynastique et spirituelle de plus de 1200 ans. C'est ça qu'ils appellent l'invariant.
L'invariant ? Alors attends, si je comprends bien l'idée.
Oui.
C'est un peu comme si on disait que pour la France, le logiciel de base, c'est la révolution de 1789.
C'est une excellente analogie.
Et pour le Maroc, d'après ce texte, son logiciel, ce serait ce lien religieux, tribal, qui a traversé les siècles, bien avant l'idée d'État-nation. C'est ça, l'invariant ?
C'est tout à fait ça. Ce noyau, c'est la monarchie et sa légitimité sacrée qui remontent à Idriss Ier, un descendant du prophète. Le document insiste beaucoup sur le pacte de Volubilis de 789.
D'accord. Ce pacte a scellé une double légitimité, orientale par le sang et autochtone par son mariage avec une princesse berbère. C'est ce noyau qui, selon le mémo, a permis au système de survivre à tout, aux invasions, au protectorat et même aux tentatives de coup d'État de 71 ou au printemps arabe. Il parle même d'antifragilité, c'est-à-dire que le système se renforcerait à chaque choc.
Exactement.
D'accord. L'argument est clair. Mais soyons honnêtes, cet argument historique, est-ce qu'il a un poids sur la scène internationale aujourd'hui ? Je veux dire, est-ce que l'ONU s'intéresse vraiment à la Baïa, cet acte d'allégeance des tribus ?
C'est une très bonne question. Et la réponse du document est assez nuancée. Pour les auteurs, cet argument n'est pas fait pour convaincre un juriste à New York.
Il sert à quoi alors ?
Ah, à recadrer le débat. Il s'agit de dire... La question du Sahara n'est pas un dossier de décolonisation classique du XXe siècle. C'est le dernier chapitre de la recomposition d'un État millénaire qui a été fragmenté.
Je vois.
Du coup, la résolution 2797 de l'ONU, il ne la voit pas comme une simple victoire diplomatique, mais comme l'aboutissement logique d'une patience stratégique.
Et la conclusion de tout ça ?
La conclusion, c'est que l'autonomie n'est plus présentée comme une concession, faite sous la pression, mais plutôt comme le perfectionnement d'une souveraineté qui a toujours existé.
Le cadre historique est posé, donc.
C'est le socle. Mais j'imagine qu'ils ne se sont pas contentés de regarder dans le rétroviseur.
Non, bien sûr que non. Une grande partie du document, c'est une analyse comparative très pragmatique. Ils ont un peu fait leur marché pour voir les bonnes et les mauvaises idées à prendre ailleurs. Alors, du côté des beaux élèves de l'autonomie, qu'est-ce qu'ils retiennent ? C'est quoi la recette miracle ?
Il n'y a pas de recette miracle, mais trois ingrédients reviennent souvent. Le premier, c'est le pouvoir économique. L'exemple phare, c'est le Groenland.
Ah oui ?
Le document retient une chose, mais elle est énorme. La région perçoit 100% des revenus de ses ressources naturelles. 100% ?
Oui, 100%.
Ah oui, d'accord. Donc la leçon, ce n'est pas juste donner-leur de l'argent, c'est plus radical. L'autonomie doit être économiquement viable, sinon ce n'est qu'un mot creux.
C'est exactement ça. Le document martèle cette idée. Une autonomie sous perfusion financière, c'est voué à l'échec. Ça crée de la dépendance, pas un partenariat. Et le deuxième ingrédient ?
c'est la protection de l'identité. Et là, le modèle, ce sont les îles Hollande en Finlande.
Qu'est-ce qu'ils retiennent de ce cas ?
La protection constitutionnelle de la langue et de la culture, bien sûr, mais surtout l'existence de mécanismes d'arbitrage qui empêchent les désaccords de pourrir et de devenir des crises politiques.
Et le troisième exemple ?
J'imagine qu'il combine un peu les deux.
Oui, c'est le Tyrol du Sud, en Italie, une région qui sortait d'un conflit très violent.
Et aujourd'hui, c'est une des plus riches d'Europe.
Voilà. La clé, selon le mémo, c'est une autonomie fiscale exceptionnelle. La région garde 90% des impôts qu'elle lève.
90%?
Oui. Et ça, couplé à un bilinguisme institutionnel très strict, la prospérité économique a, en quelque sorte, éteint le séparatisme.
D'accord. Donc on a ces trois exemples de réussite. Mais on apprend souvent plus des échecs. Le document analyse aussi les cas où ça a déraillé, non? Bien sûr. Et c'est peut-être la partie la plus instructive. Deux contre-exemples sont analysés en détail. Le premier, c'est la Catalogne.
Ah, le cas d'école.
Le cas d'école de l'ambiguïté constitutionnelle. Des mots comme « nation » n'ont jamais été clairement définis, ce qui a laissé la porte ouverte à toutes les interprétations.
En plus de l'absence de dialogue politique, j'imagine.
Oui, tout finit devant les tribunaux. Ajoutez à ça un système fiscal perçu comme injuste et vous avez le cocktail parfait pour nourrir le séparatisme.
Le fameux « España nos roba ». Le problème n'était donc pas le désir d'autonomie, mais un mode d'emploi du pays mal écrit dès le départ. Et le deuxième cas d'échec ?
Le Kurdistan irakien. Là, c'est un avertissement sur plusieurs fronts. D'abord, le danger de la dépendance à une seule ressource, le pétrole.
Ce qui rend l'économie très vulnérable. Voilà. Ensuite, la corruption. Et surtout, la grande leçon politique. Les conséquences désastreuses d'un référendum d'indépendance unilatérale sans soutien international. Ça a été un fiasco qui a affaibli son autonomie au lieu de la renforcer.
D'accord. Alors, avec tout ce bagage, comment ils construisent leurs propres propositions ? Comment s'y prennent-ils pour cette autonomie à la fois large et verrouillée ?
Commençons par la gouvernance.
La pièce maîtresse, c'est un parlement régional bicaméral à deux chambres pour marier tradition et modernité.
Comment ça se découpe ?
Alors, il y aura une chambre basse, l'Assemblée du peuple sahraoui, élue au suffrage universel. C'est elle qui voterait les lois régionaux, le budget... Le travail parlementaire classique, quoi.
Et la deuxième chambre ?
C'est là que ça devient plus original, j'imagine. Exactement. Une chambre haute, le conseil des tribus et des sages, qui représenterait les structures sociales traditionnelles, et son rôle ?
Son rôle ne serait pas de légiférer au quotidien. Ce serait une sorte de verrou, un frein d'urgence.
Un frein d'urgence culturel, en quelque sorte. Ils ne conduisent pas la voiture, mais si une loi risque de foncer dans un mur identitaire, ils peuvent tirer le frein. C'est ça l'idée.
C'est parfaitement résumé. Ils auraient un droit de veto suspensif sur les lois jugées menaçantes pour les coutumes ou la cohésion sociale.
D'accord, un parlement à deux têtes. Mais qui tient les rênes au quotidien ? Qui est le chef ?
La proposition est une séparation très claire des pouvoirs. D'un côté, un chef de gouvernement régional issu de la majorité au parlement local. Et de l'autre, un wali, un gouverneur royal qui est nommé par l'État et qui incarne la souveraineté. Il supervise ce qui reste à l'État central, défense, monnaie, affaires étrangères. Sur le papier, ça a l'air clair. Mais on sait que c'est dans les zones grises que naissent les conflits. Ce conseil mixte est à région qu'il propose. Est-ce que ce n'est pas juste un gadget ? Qu'est-ce qui garantit que ce sera un vrai dialogue ?
C'est le point névralgique, oui. Et le document essaye d'y répondre. Ce conseil mixte est présenté comme la clé de voûte anti-crise. Il serait paritaire.
Donc autant de représentants de l'État que de la région ?
Exactement. Le but, c'est de ne pas attendre que les problèmes arrivent au tribunal. C'est un lieu de négociation permanente. Et pour que ce ne soit pas juste pour la forme, ces décisions, prises à la majorité qualifiée, auraient une force contraignante. Bon, passons à la question qui fâche. L'argent. Un projet politique comme ça, ça se finance comment ?
Ah, le nerf de la guerre. Le plan propose un modèle fiscal hybride très détaillé, sur trois piliers. Le premier, c'est classique, la fiscalité propre. La région lève ses propres impôts.
Et le deuxième pilier, j'imagine que c'est le plus important, les ressources naturelles.
C'est le cœur du réacteur économique. Et là, le mémorandum avance des chiffres très précis. La région conserverait 70% des revenus des phosphates et de la pêche.
70%? C'est énorme!
Oui, et 65% des potentiels futurs revenus des hydrocarbures. C'est le genre de chiffre qui doit faire tiquer à rabat. Ça montre qu'ils sont prêts à lâcher beaucoup de lest sur l'économie pour sécuriser le politique. C'est un vrai pari.
C'est un pari et il est assumé. La philosophie, c'est que cette générosité n'est pas une dépense, mais un investissement dans la stabilité à long terme. C'est le prix à payer pour que l'autonomie soit crédible.
Et le troisième pilier ?
C'est la solidarité nationale, mais une solidarité dégressive. L'État central continuerait de verser des dotations, mais ses transferts diminueraient progressivement sur 15 ans. Donc, si je résume, le message c'est « On vous donne les clés du camion et assez d'essence. Au début, on vous aide à payer les péages, mais dans 15 ans, vous devez être capable de rouler tout seul. » C'est exactement cette idée d'émancipation progressive. Et au-delà du financement, il y a une vision de développement, une sorte de plan Marshall saharien.
C'est-à-dire ?
L'idée est de voir la région comme un futur hub atlantique. Ça passe par des projets comme le port de Dakhla Atlantique, le Dubaï de l'Atlantique, ou l'ambition de faire du Sahara le Kuwait du solaire.
Une machine politique et économique, d'accord. Mais qu'en est-il des gens ? Comment on répare les blessures d'un conflit qui a duré des décennies ?
C'est le volet humain du plan. Il commence par un pacte identitaire basé sur le trilinguisme. L'arabe classique resterait la langue nationale.
Mais,
et c'est un point crucial, le Hassani, le dialecte de la région, deviendrait langue régionale officielle avec un statut garanti par la Constitution.
Donc l'idée, c'est de faire de l'identité sahraoui une spécificité valorisée et non plus une menace pour le système.
C'est ça. Arrêter de la voir en opposition à l'identité marocaine, mais plutôt comme l'une de ses composantes. Appliquer la devise « l'unité dans la diversité ».
Et pour tourner la page du conflit lui-même, pour les familles séparées, les souvenirs, comment on gère ça ? Le document est très direct là-dessus. Il propose une commission régionale vérité, mémoire et réconciliation. Son mandat serait double. D'abord, un travail de mémoire, documenter, recueillir les témoignages. Et le deuxième volet, plus concret, un rapatriement digne pour une famille qui vit dans les camps de Tindouf depuis 40 ans, ça veut dire quoi sur le terrain ? Ça veut dire un programme très concret. D'abord, une amnistie générale. Ensuite, un accompagnement matériel. Des logements, une aide financière de transition. Et pour le travail...
Mais surtout, des programmes de formation et d'aide à l'insertion professionnelle pour que le retour ne soit pas un saut dans le vide. L'objectif est de rendre le retour non seulement possible, mais attractif.
En résumé... On a une proposition d'autonomie qui joue sur tous les tableaux, ancrée dans l'histoire marocaine, mais aussi très pragmatique en s'inspirant des expériences internationales. L'idée de fond, si j'ai bien tout suivi, c'est que cette autonomie ne serait pas une rupture, mais un accomplissement.
C'est ça. Le fil rouge, c'est la primauté de la légitimité sur la force, l'unité dans la diversité et la patience stratégique. Le texte passe beaucoup de temps à dire ce que cette autonomie n'est pas.
Ni une étape vers l'indépendance, ni un état dans l'état.
Pour mieux définir ce qu'elle est à leurs yeux.
Le stade ultime, le perfectionnement de la souveraineté marocaine dans un cadre moderne. Le document se termine sur une note un peu vertigineuse, en se demandant ce que les historiens de l'an 2125 diront de notre époque.
Et c'est une pensée qui reste. Au-delà de ce cas spécifique, ce texte pose une question universelle. À quel moment une société décide qu'il est moins risqué de tenter une réinvention institutionnelle audacieuse,
même imparfaite,
que de s'accrocher à un statu quo qui ne mène nulle part ? Ce mémorandum, avec ses forces et ses faiblesses, est une tentative de réponse. Il parie que l'avenir ne se construit pas en effaçant les identités, mais en leur créant un cadre assez solide pour qu'elles puissent prospérer ensemble.